Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série sur ce thème merveilleux, l'amour de notre Dieu. Et le titre aujourd'hui sera « L'amour lave les pieds ». Or, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin, parce qu'il savait que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements, et ayant pris un linge, il s'en ceignit, c'est-à-dire il le mit autour de lui, puis il verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec ce même linge. C'est dans Saint Jean, chapitre 13, versets 1, 3 et 5. Un des plus grands secrets de l'humanité se cache dans ces versets-là. Aussi, je voudrais y attirer votre attention. Jésus pouvait se permettre d'être humble parce qu'il ne se débattait pas avec un complexe d'infériorité comme tant de gens entre nous. Et je peux aussi dire que ça m'arrive. Nous ne voulons pas accomplir la tâche humble par crainte de perdre notre dignité. Nous essayons d'atteindre une position élevée dans la vie. C'est un peu, aujourd'hui surtout, un devoir ou un must de ceux qui veulent survivre. Et c'est toujours dans le but de prouver qui nous sommes. Mais les vrais enfants de Dieu, ceux-là n'ont rien besoin de prouver. Pourquoi ? Ils n'ont rien besoin de prouver à qui que ce soit. Et vous savez pourquoi ? Car Jésus savait qui il était, et de ce fait, il pouvait faire le travail d'un esclave, ce qu'était en réalité le lavement des pieds. En premier lieu, Jésus savait que son heure était venue. Oh, si seulement nous pouvions discerner les temps et les saisons. Si nous possédions cette révélation du temps dans ces derniers jours, nous arrivons à une époque où nous n'avons plus le temps de mener une vie d'apparence. C'était l'heure pour lui de connaître la croix et la couronne. Un peu plus loin dans ce chapitre, toujours Saint Jean chapitre 13, mais au verset 31 et 32, Jésus fait allusion à sa glorification. Écoutez ce qu'il dit. « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. » Et Dieu est glorifié en lui. Oh, c'est beau cela, je répète. Maintenant le Fils de l'homme est glorifié. Et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu glorifié en lui, eh bien Dieu aussi, sachez-le. Oh oui, Dieu le glorifiera en lui-même et il le glorifiera. Que c'est merveilleux de réaliser que notre couronne de gloire est dans la croix, car on ne peut avoir l'une sans l'autre. Le gouverneur John Bowring, à l'époque quand il était gouverneur de la colonie britannique de Hong Kong, fut si impressionné par les ruines imposantes de la vieille cathédrale Saint-Paul de Macao, qui a été détruite dans un incendie, qu'il écrivit l'hymne célèbre et admirable suivant. En voici les paroles. « Je me glorifie dans la croix de Christ qui domine les ruines du temple et aussi les ruines du temps. Toute la lumière de l'histoire sacrée rayonne de sa tête sublime. Quand les maux de la vie m'environnent, les espoirs me trompent et les craintes me pressent. Jamais la croix ne m'abandonne. Voyez, elle luit de paix et de joie. Quand le soleil du bonheur étend sa lumière et son amour sur ma route, les flots lumineux de la croix ajoutent encore à la brillance du jour. Mépris et bénédiction, douleur ou plaisir par la croix sont sanctifiés. La paix y règne, infinie, et les joies y demeurent éternelles. Il paraît qu'on est profondément touché par ce site. On le voit bien entrant dans le port. Quand vous entrez dans le port, vous voyez tout cela merveilleux. Toute la cathédrale est en ruine, sauf la façade antérieure. Et là, au sommet, se dresse cette belle, merveilleuse croix, telle qu'elle a été placée au premier jour, il y a plus de 150 ans. Nous ne serons glorifiés qu'en acceptant la croix que le Seigneur nous donne. Jésus savait, oh oui, il savait que l'heure était venue pour lui, elle était venue pour lui d'accepter sa croix. Si nous savons discerner l'heure de prendre notre croix, nous sommes prêts à accomplir les tâches les plus humbles que l'orgueil ne nous aurait jamais permis de faire. En second lieu, Jésus a pu laver les pieds, oh oui, de ses disciples. Pourquoi ? Parce qu'il les aimait et qu'il les avait aimés du début jusqu'à la fin. L'amour vous fera paraître fou, car par amour pour un enfant, on est même capable de faire des gestes un peu idiots tels que des grimaces, faire le clown, sauter, etc. On peut s'humilier et s'abaisser au niveau d'un enfant pour le toucher dans son humour et ses jeux. Quelquefois, l'amour nous humiliera. Oh oui, cet amour va nous humilier pour atteindre des gens d'un niveau spirituel peut-être moins élevé que le nôtre, et cela afin de leur enseigner une leçon qu'ils ne pourraient jamais apprendre autrement. Le livre des Proverbes nous déclare « Répand au sot selon sa folie ». Proverbe 26, verset 5, et le Proverbe 24, verset 7 nous dit « La sagesse est trop haute pour le fou, L'amour de Dieu vous rendra capable de laver les pieds, même de ceux qui vous trahissent. Vous savez que Jésus a lavé les pieds de tous ses disciples, y compris, oui, y compris ceux de Judas. Si vous savez qui vous êtes en Dieu, que votre heure est venue, si votre cœur est suffisamment rempli de l'amour de Dieu, aucun travail ne vous semblera trop vil ou trop bas. Vous pouvez creuser des tranchées, labourer un champ, frotter des planchers, vider les poubelles ou nettoyer même les toilettes avec la même grâce que prêcher ou prier. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu. Si vous ne l'êtes pas, ces tâches seront alors des terribles échardes dans votre chair et une ombre pour la réputation que vous vous efforcez si laborieusement d'établir. Voyez-vous, l'un des plus grands hommes de Dieu qui jamais vécu au Canada, il s'appelait H. Blair. Il était aussi responsable des grandes conventions annuelles de Breastside qui se tenaient sous tente. À l'époque, il n'existait pas les installations sanitaires d'aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre compte ce que ça veut dire. On avait installé des cabanons qui dégageaient rapidement une odeur épouvantable quand les 5000 participants de la conférence les utilisèrent. Or, croyez-le ou pas, mais c'est vrai, chaque matin, très tôt, ce très grand serviteur de Dieu allait en personne nettoyer les toilettes. Nul n'imaginait, en le voyant quelques heures plus tard sur l'estrade, bouleverser les foules par l'onction de l'Esprit-Saint et de sa prédication au lieu de s'adonner à la prière qui aurait été importante, nécessaire, au petit matin. Pour recevoir là son onction puissante, il avait nettoyé leur propre toilette. Oui, bien-aimé, l'onction ne vient pas toujours quand nous sommes à genoux. Elle vient parfois quand on roule la pierre de dessus un puits, tel que pour Jacob, ou qu'on creuse un puits, tel que Israël, ou qu'on fait tourner la meule, tel que Samson, ou qu'on fuit ses ennemis, et on pense à David, ou travaille comme esclave. Vous voyez, il y en a qui travaillaient comme esclaves dans les mines de sel de Patmos, tel que Saint Jean. En troisième lieu, Jésus savait, il savait que Dieu avait tout remis entre ses mains. Il est temps de nous rappeler qui nous sommes réellement dans le royaume. Nous pouvons cesser de baisser la tête de honte, redresser les épaules, et ajuster la couronne royale, prendre notre sceptre et entrer dans notre position de chef et de roi dès maintenant. Notre heure de glorification, elle est arrivée. Jésus nous a donné pouvoir, le pouvoir sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute infirmité, selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 1. Il a dit du reste, Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, ne vous nuira. Saint Luc chapitre 10, verset 19. Saint Paul disait, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 37. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, verset 14, il écrit, grâce à Dieu qui nous mène toujours, oh oui, toujours en triomphe dans le Christ et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Saint Jean déclare, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 4. Le psalmiste affirme, il affirme qu'avec toi, nous frapperons nos adversaires par ton saint nom et nous foulerons ceux qui s'élèvent contre nous. Psaume 44, verset 5. Car tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 4. On peut dire Alléluia, car Jésus savait qu'il était né de Dieu. Il est temps pour nous qui sommes réellement nés de nouveau, de savoir que nous sommes aussi nés de Dieu. Et fort de cette vérité, prenons notre place de vainqueur, de conquérant et de gagnant spirituel par le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde attend, il attend la révélation des fils de Dieu, nés de Dieu pour cette heure-là. Commençons donc en lavant les pieds. En quatrième lieu, Jésus a pu laver les pieds des disciples parce que, voyez-vous, il savait d'où il venait. Mes bien-aimés, certains de nous ont oublié d'où il venait. Nous dominons le pécheur, le rétrograde, et nous nous sentons supérieurs à eux parce que nous oublions, oh oui, nous oublions que nous aussi, et je suis de ceux-là, à une certaine époque, nous étions des pécheurs. Saint Paul s'est toujours rappelé qu'il était le premier des pécheurs. La sainte parole de Dieu dit, regardez au rocher d'où vous avez été taillés, et au creux du puits d'où vous avez été tiré. Ésaïe, chapitre 51, verset 1. Le Seigneur devait continuellement rappeler à Israël que son père était un Amoréen et que sa mère était une Héthienne et qu'il l'avait trouvé nu, rejeté, abandonné dans les champs, souillé du sang de l'accouchement, et que, dans sa compassion, il lui avait dit « Vie ». Il lui avait insufflé la vie, l'avait couvert de sa robe, l'avait lavé, l'avait oint, paré et nourri du meilleur froment, de miel même et d'huile. Il l'avait fait prospérer jusqu'à être un royaume de grand renom et de beauté que les autres nations admiraient, parfait de la magnificence dont Dieu l'avait comblé. Ézéchiel, chapitre 16, verset 14. Il fallait donc qu'Israël se souvienne qu'il n'avait pas obtenu ces choses par sa propre justice, mais par la miséricorde et par la bonté de Dieu à son égard. Nous avons, nous aussi, chers amis, fréquemment besoin de réentendre cette vérité dans notre vie. Je pense souvent à quel point nous ressemblons aux serviteurs ingrats, rappelez-vous. Ce serviteur ingrat qui devait 10 000 talents au roi, mais parce qu'il n'avait pas les moyens de les rembourser et que le roi le menaçait de vendre sa femme et ses enfants en échange, il tomba à genoux et le supplia en disant « Seigneur, s'il te plaît, use de patience envers moi et je te payerai tout. » Le roi, qui était ému de compassion, lui remit toute sa dette. Mais cet homme s'en alla trouver un des autres serviteurs qui lui devait uniquement 100 deniers. Et il le saisit, et on peut dire, pardon, il l'étranglait en exigeant, il l'avait exigé, « Paye-moi ce que tu me dois. » Comme le pauvre homme ne pouvait pas le payer, il le fit même jeter en prison jusqu'à échéance de sa dette. Alors on rapporta au roi ce qui s'était passé, et celui-ci, très irrité, appela son serviteur, et il lui dit, « Méchant serviteur, je t'ai remis toute la dette, rappelle-toi, parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi ?» Et de colère, il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Vous pouvez lire cela dans Saint Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 35. Voyez-vous, Jésus savait, il savait par révélation d'où il venait. Certains d'entre nous se rappellent par leur passé d'où ils viennent. Mais il existe, avant notre naissance, des secrets éternels qui ne nous ont pas été révélés, qui appartiennent à la prédestination des élus de Dieu. L'Éternel dit à Jérémie, « Avant même que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu es sorti de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. » Jérémie, chapitre 1, verset 5. Jérémie, il a pu résister à tous ses persécuteurs et à tous ses moqueurs parce qu'il savait ce qu'il était. Dieu lui avait révélé que sa naissance était prédestinée et qu'il était appelé à être prophète. Salomon, oh oui, Salomon savait qui il était, car Dieu avait dit à son père David, « Je susciterai après toi ta semence qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son royaume. Je lui bâtirai une maison à mon nom, et j'affirmerai le trône de son royaume pour toujours. Là, vous pouvez dire, je crois, dans le chapitre 12 de Samuel, non, dans Samuel, chapitre 7, versets 12 et 13, excusez-moi. Samuel, chapitre 7, versets 12 et 13. Salomon, lui, il savait également qui il était. Il savait qu'il était roi, roi par vocation divine, et qu'il devait bâtir le temple de Dieu. Samson, rappelez-vous, il savait qu'il était né pour délivrer Israël, car l'ange de l'Éternel avait apparu à sa mère qui était stérile et lui avait dit « Tu concevras et tu enfanteras un fils. Le jeune garçon sera Nazaréen de Dieu, et cela dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » Juges, chapitre 13, versets 3 et 5. Donc, Samson connaissait son appel et les lois qu'il devait observer pour obéir à cette vocation divine sur sa vie. Nous avons Joseph. Joseph, oh oui, il savait qui il était, car Dieu lui avait parlé par des songes. Même lorsqu'il se retrouva vendu comme esclave et en prison, il savait qu'un jour, ses frères se prosterneraient devant lui. Abraham savait qui il était. David également. Saul savait ce qu'il n'était pas. Et c'est pour cela qu'il tremblait. Christ, il savait qui il était. Et Marie savait qui elle était et comment, ainsi que Élisabeth, sa cousine. Saint Paul savait qui il était. Il était une lumière pour éclairer les nations. Et Jean-Baptiste également savait qui il était. Il était la voix qui crie dans le désert. Du reste, il disait, « Je ne suis pas le Christ, mais quand vous savez qui vous êtes, vous n'essayerez pas d'être quelqu'un d'autre. Vous serez satisfait de votre état comme Jean-Baptiste. » En cinquième lieu, Christ, dans sa grandeur, savait qu'il allait à Dieu le Père. Et là, nous pouvons dire « Alléluia ». Car il connaissait son avenir. Il est si merveilleux à l'approche de ces temps de ténèbres de savoir que nous lisons, vous et moi, le dernier chapitre du livre divin de la destinée. Nous savons où nous allons. Nous savons que ce sera beaucoup mieux qu'aujourd'hui, car l'avenir est aussi glorieux que les promesses de Dieu. L'avenir, c'est la présence de Dieu. C'est la libération de tous les liens terrestres. C'est la délivrance de toutes les douleurs et faiblesses physiques. C'est la victoire sur tous les combats et tous les conflits. C'est l'oubli de toutes les peines, le dépôt de toutes les croix. C'est la levée de tous les fardeaux et c'est le pardon de toutes les dettes qui sont impayées. Ça, c'est revenir à notre Dieu et à notre ciel, c'est de flotter comme les nuages, sans limitation des forces physiques, absolument libre de toutes les lois de la gravité. C'est chanter avec les chœurs des anges, jouer des instruments célestes dans des orchestres et des symphonies d'en haut. C'est entrer dans une demeure déjà payée et déjà exonérée d'impôts. C'est prendre part au souper des saints. C'est voir Jésus et l'entendre dire « Bien, bon et fidèle ami, entre dans la joie de ton maître. » C'est pouvoir dire avec saint Paul « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Donc rien d'étonnant à ce que saint Paul dise « Je suis prêt à servir de libation, c'est-à-dire une offrande rituelle. » Il y a récemment, entre novembre 2013 et janvier 2014, j'ai eu des pneumonies assez sévères, plus une infection pulmonaire, et j'ai dû avaler antibiotiques sur antibiotiques qui m'ont rendu extrêmement faible. J'étais vraiment las, complètement las de la vie, et j'étais beaucoup plus disposé de partir que de rester. Et j'ai lu un poème que j'aimerais partager avec vous qui m'écoutez maintenant. Je suis prêt à m'en aller, tous mes bagages sont faits, et j'ai fait mes derniers adieux. J'ai regardé une dernière fois tout ce que j'ai aimé et versé la dernière larme. Je me tiens à la porte, la valise en main. J'ai voyagé avec lui bien des distances. Ce n'est plus de babioles ou de vêtements qu'il est maintenant rempli, mais il est rempli d'âmes que j'ai trouvées ces derniers temps. Je suis pressé de partir, cela ne me coûte pas, car j'en connais le prix depuis longtemps. J'ai dit adieu au monde et à ses charmes, car je languis d'être dans les bras de mon cher Jésus. Mon oreille a longtemps attendu ton cher appel d'amour. Mon œil a regardé attentif vers toi. Et maintenant, à ta voix, d'un bond, je courrai vers toi et ne te quitterai plus. Ceux que j'aime, je les retrouverai là-haut. Les autres, je crois, ne me manqueront pas beaucoup. Car si nos cœurs étaient éloignés sur terre, ils ne se chercheront pas là-haut non plus. La route a été longue et je suis las et usé. La douleur de mon cœur s'accroît, mais cessera bientôt quand tu viendras me prendre et que nous gravirons ensemble cette dernière colline. Oui, je sais que je ne suis pas digne d'ouvrir la porte du ciel, ni de marcher dans ces rues d'or pur. Mais ton précieux sang a ouvert la porte et ton amour pour moi n'a jamais faibli. J'ai été, il est vrai, infidèle, et j'en ai honte à la pensée de mes faiblesses et de mon péché. Mais bientôt, de l'autre côté, en ton saint nom, je serai changé et ne m'en souviendrai plus. Tu as dit que mes fautes, mes péchés, mes échecs étaient pardonnés. Ô Jésus, mon cœur est rempli de louanges. Adieu donc, mes voisins, amis et ennemis. Vous voici enfin libérés de ma présence. J'entends au loin le bruit des roues. Il vient me chercher. Mon bien-aimé Seigneur Jésus, celui que j'adore, je vais parcourir la dernière étape avec toi. Chers amis, lorsque vous savez que chaque jour de votre vie est encore un jour de grâce, croyez-moi, vous pouvez alors laver les pieds des autres. J'aimerais, avant que nous terminions par la prière, j'aimerais, bien que c'était une étude très courte, vous donner quelques pensées que le Seigneur m'a données pour vous. Les voici. N'essayez surtout pas de violenter vos sentiments pour être en état d'aimer autrui. Venez plutôt à Jésus-Christ. Apprenez à l'aimer toujours mieux, à le connaître ainsi toujours mieux. Aussi, et petit à petit, vous en arriverez à voir votre prochain comme Jésus le voit. Alors vous l'aimerez, oui, vous l'aimerez non seulement à cause de votre amour pour Christ, parce que en raison de cet amour, vous désirerez le servir. Non, mais vous discernerez en lui, en Jésus-Christ, ce qui est digne d'être aimé, et vous pourrez mieux aimer votre prochain tel qu'il est, parce que Jésus vous donnera de discerner en lui ce qui est beaucoup plus digne d'être aimé que tout ce qui est négatif en lui. Et à cause de cela, vous pourrez l'aimer. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble. Et il est merveilleux de savoir que le Seigneur vous aime. Ô Dieu de notre salut, tu as daigné accorder à tes faibles créatures des jours de grâce et de repos, destinés à fortifier et sanctifier leur âme, mais qu'il est douloureux de penser combien peu elles savent apprécier l'étendue d'une telle faveur. Cette journée que tu t'es réservé, Seigneur, n'est-elle pas pour d'immenses multitudes un jour de rébellion contre toi et d'outrage à ta loi sainte? Et pour ceux-mêmes qui te servent et qui font profession de t'aimer, n'est-elle pas une occasion de t'offenser? Oui, nous devons le sentir avec douleur et le confesser avec confusion. Plus que dans tout autre jour, nous sommes coupables, coupables aux yeux du Seigneur, que chacun de nous rentre sérieusement en soi-même, examinant ses voies et les secrets mouvements de son cœur, et que chacun de nous se demande s'il a réellement servi son Dieu, s'il lui en a consacré tous les instants, s'il a pris un sincère plaisir à lui offrir son hommage et ses adorations, s'il a fait véritablement ses délices du culte saint auquel tout fidèle est appelé à participer. Comment, au retour de chaque dimanche, ne nous disons-nous pas, peut-être est-ce la dernière fois que je puis te rendre grâce, ô Dieu, dans cette assemblée, dans cette église où se trouvent tes enfants, car notre vie peut être bornée par tes décrets éternels, et à chaque heure la mort, elle peut nous surprendre. Oui, qui vaincra la légèreté, l'endurcissement de nos cœurs, qui nous rendra sérieux et nous apprendra à ne plus profaner le saint jour du Seigneur. Ta grâce seule, ô notre Dieu, l'influence de ton Saint-Esprit, pénétrant dans les profondeurs de nos âmes, que nous sachions donc te supplier de ne point nous refuser ces dons précieux, et qu'à cette heure, nous sachions nous humilier dans le sentiment d'une véritable repentance, et que nous puissions dire avec sincérité et avec bonheur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, réjouissons-nous en elle. Exauce, ô Seigneur, nos humbles prières. Oui, Dieu Tout-Puissant, au nom et par les mérites de Jésus-Christ notre Sauveur, ton Fils bien-aimé en qui seul se trouve la vie éternelle. Amen. Amen. Et Seigneur, et chers amis, pardonnez-moi, chers auditeurs et auditrices, à demain matin, pardonnez-moi, à demain matin pour la suite de cette merveilleuse série. Que le Seigneur vous bénisse richement. À bientôt donc, mes chers amis.